Et il se trouve, si on maintenant s'intéresse aux Antilles, qu'on est confronté à quelque chose qui est encore plus net et qui est tout simplement glaçant. Là, ce ne sont pas des œuvres que l'on achète, ce sont des hommes. Et lorsqu'on regarde la cote des musiciens, lorsqu'il s'agit de vendre des esclaves, la cote des musiciens, elle est élevée. Ils sont vendus plus cher que les autres. Et nettement plus cher. Je me souviens de Frédéric Réjean qui m'avait dit qu'il avait des milliers d'esclaves dans sa base de données de la Guadeloupe. Le plus cher, c'était un esclave musicien. À qui, d'ailleurs, on avait donné, les maîtres avaient donné le nom d'un violoniste européen, d'un violoniste virtuose européen. Alors cette question de la question de la valeur marchande, de la valeur économique, on la retrouve sous un autre angle chez les organisateurs de Calenda. Voici un colon martiniquais. Qu'est-ce qu'il dit ? J'ai fait cesser la danse de bonheur parce que je me suis aperçu que les ménétriers, quoique payés par moi, prenaient de l'argent des esclaves étrangers. Donc voici dans le cadre de la musique qui était pratiquée sur une habitation, un circuit économique. Et ce circuit économique, il existe depuis fort longtemps. Le père là-bas en parlait déjà. Donc il y a de l'argent qui circule et des musiciens sont payés par des esclaves. Voici maintenant un esclave qui est marron et qui est un musicien qui fait profession de musique afro-créole. Zamor, Congo, cuisinier appartenant à la mineure Guillemin, étant Pé Guillemin, âgé de 25 à 26 ans, de la taille de 1 pied 5 pouces, ayant plusieurs dents cassées sur le devant de la mâchoire supérieure, est parti marron pendant la nuit du 13 au 14 juillet dernier. Ce nègre a été vu dans le quartier de Port-de-Paix battre du tambour pour les danses à nègres. C'est le métier qu'il fait depuis qu'il est marron. Il faut être très attentif à une annonce comme celle-ci parce que beaucoup de choses sont dites qui ne sont pas forcément, qui sont sous-entendues. Pourquoi on décrit comme ça quelqu'un en disant qu'il est musicien ? Ben c'est parce que quelqu'un qui se sauve comme ça d'une habitation qui est marron, il va se déclarer dans l'apparence d'à côté comme libre. Mais il faut qu'il vive. Et comment il va vivre ? Eh bien en exerçant ce qu'il sait faire. Donc il va se faire payer, il va être charpentier, il va être cuisinier, etc. Et là, en l'occurrence, il joue du tambour. Il y a comme ça, dans les annonces de marronnage de Saint-Domingue, un certain nombre d'annonces où on voit apparaître des musiciens qui sont manifestement payés pour faire de la musique dans un contexte afro-créole. Donc ça, c'est un peu une surprise, je veux dire, parce qu'on a un circuit économique et qui concerne des musiciens. Et en définitive, on est dans un univers parallèle, pour ainsi dire, avec surtout quelque chose d'intéressant, c'est que la valorisation des individus qui font cela ne dépend pas du tout de la sphère coloniale. Ça reste interne au monde des esclaves. Ça n'est pas du tout quelque chose qui est avec une sorte de valeur qui est proposée par l'étage supérieur, si on peut dire. Ça n'a rien à voir. Alors ce qu'il faut dire, pour finir avec ce sujet juste de la valeur de l'individu, ça a été bien dit et beaucoup mieux dit que je pourrais le dire par Édouard Glissant qui parlait de la jouissance et du temps. Alors il en parlait sous différentes formes, de la jouissance et du temps. Là, si on s'interroge sur ce que c'est que de faire de la musique dans le contexte esclavagiste, en fait, quelqu'un qui est esclave et qui fait de la musique, il est maître de son temps. Et tous les mots ont une importance là-dedans. Maître de son temps. Il fait de la musique, mais il maîtrise son temps. C'est quelque chose qui est évidemment tout à fait hors de portée quand il est avec les coups de fouet du maître, c'est évident. Donc la musique, là, elle est valorisée, et elle est valorisée de façon tout à fait importante. Et ça, il faudra le mémoriser quelque part pour voir toute l'importance que la musique peut avoir dans la Caraïbe comme mémoire historique et comme facteur identitaire. Si je passe maintenant à la sphère coloniale, ah oui, j'oublie cet exemple-là qui est assez intéressant aussi. Un autre exemple, cette fois-ci, sur une habitation dans laquelle il y avait une fête. On avait même vu une esclave de l'habitation Le Feu, maîtresse du procureur, donner à la Saint-Louis un repas de 400 couverts servi en vaisselle plate et égayé par les chants des chanteurs publics Trois Feuilles et Grand Simone, dont les banzas étaient garnis de doublons. Alors ça aussi c'est intéressant parce qu'on voit apparaître une sorte de réputation. Les deux musiciens qui sont cités là, qui sont donc des chanteurs qui s'accompagnent avec des banzas, donc je vous ai montré un banza tout à l'heure, ils ont carrément des noms, on pourrait presque dire des noms de scène, c'est pas peut-être un peu exagéré de dire ça, mais en tout cas ils sont des chanteurs connus, chanteurs publics. Et ce qui est assez troublant, entre parenthèses, c'est qu'il y en a un des deux qui s'appelle Trois Feuilles. Or, Trois Feuilles, c'est une chanson célèbre en Haïti, une chanson vaudou, hein, sur la mémoire, sur le passé. Et c'est assez troublant de voir qu'il y a ce nom-là. Si en plus de ça, on regarde le banza, la copie du banza qui se trouve au musée Checher, il y a précisément sur le manche dessiné des feuilles. Alors, est-ce qu'il y en a trois ou est-ce qu'il y en a cinq? C'est difficile à dire. Bon. Peut-être qu'il y en a trois, en fait. Toujours est-il que là, le musicien s'appelle Trois Feuilles.